Venez vous confier à Olivier Delacroix sur Europe 1.
Et nous accueillons Céline. Bonsoir Céline.
Bonsoir Olivier.
Comment allez-vous ?
Ça va.
Bon.
Je vous remercie.
Très bien. Alors dites-moi ce qui vous amène Céline.
Moi j'avais envie de vous parler de l'histoire de mon petit garçon Mathis qui va bientôt avoir 11 ans.
Oui.
Et qui a été testé au potentiel ou enfant surdoué ou enfant précoce quand il avait 4 ans. Donc il a bientôt 7 ans.
D'accord. Alors je suis toujours étonné par ces enfants à haut potentiel et surtout dans le cas de Mathis qui a été repéré assez jeune, ce qui est plutôt une très bonne chose parce que on sait combien lorsqu'un enfant n'est pas diagnostiqué ou repéré, je ne sais pas quel est le bon terme, mais combien cela peut lui poser de problèmes ensuite, ne sachant pas vraiment ce qui lui arrive, comme les parents, en fait, n'ayant pas repéré ce haut potentiel. Vous, à 4 ans, Mathis a pu être testé. Dans quelles conditions ça s'est passé ?
Et en fait, ça faisait plusieurs mois que son intégration à l'école maternelle se passait très mal. Il s'ennuyait, il faisait des crises, il refusait d'y aller. Il posait tout un tas de questions qui n'intéressaient pas sa maîtresse. Et du coup, il y avait une sorte de frustration énorme. Donc, alors qu'il avait très, très envie d'aller à l'école.
Il posait des questions qui n'intéressaient pas la maîtresse. C'est formidable, ça. C'est formidable.
Par exemple, en première année de maternelle, un soir, je suis venue rechercher mon fils et la maîtresse était assez énervée. Elle m'a donné un livre sur le corps humain en me disant « Les flux sanguins, ce n'est pas au programme de première année de maternelle ». Et du coup, Mathis, je pense qu'il se posait plein de questions sur le corps humain, ce qui était, je pense, peut-être des questions pertinentes pour un petit garçon de 3-4 ans.
Oui.
Mais elle ne l'a pas entendu comme ça. Et donc, rapidement, je pense qu'il s'est senti rejeté par une école qui n'arrivait pas à répondre à ses questions existentielles. Voilà, tout simplement.
C'est assez incroyable, la réaction de cette maîtresse, quand même, parce que... on est plutôt à tendre vers le haut. Et donc, lorsqu'on a des enfants à 4 ans qui sont éveillés comme ça en classe, j'ai toujours du mal à comprendre ce type de réaction, si vous voulez, parce que je trouve que quand on a un enfant comme ça dans la classe, je pense que ça peut aussi, alors en proportionnant bien les choses, bien évidemment, afin de ne pas mettre mal à l'aise les autres élèves, mais... ça peut toujours tirer la classe vers le haut, vous voyez, ça peut toujours provoquer un questionnement peut-être supplémentaire des petits copains et des petites copines.
Ouais, je pense que nous, ce qu'on nous a dit rapidement, c'est que il posait tout le temps des questions qui n'avaient rien à voir avec ce qu'elle avait organisé, qu'il y avait beaucoup d'élèves dans la classe, ils étaient presque 30, qu'on ne pouvait pas niveler sur le questionnement de Mathis, qu'il fallait qu'il arrive à s'intégrer. Et que surtout, comme il n'arrivait pas à s'intéresser à ce qui se passait en classe, il commençait à faire un peu de bazar, ou ne pas écouter, être un petit peu en rébellion. Donc c'est devenu, je crois, comme un élément perturbateur dans un système traditionnel où les enseignants ne sont absolument pas formés à des élèves différents. Donc rapidement, on a vu une psychologue pour enfants qui nous a orientés vers les tests pour savoir si c'était un enfant précoce ou pas. Et là encore, ça a été assez compliqué puisque la maîtresse a refusé d'entendre les résultats parce que d'un côté, Mathis posait des questions effectivement qui semblaient complètement incroyables pour un enfant de 3-4 ans. Mais d'un autre côté, il refusait de dessiner, il ne voulait pas dessiner, il n'aimait pas écrire parce qu'en fait, un enfant précoce, c'est un enfant qui a quelques domaines de compétences élevés, mais qui a aussi des difficultés, qui reste un enfant, qui a un corps d'un enfant de 3-4 ans, qui a des difficultés pour écrire, ils sont souvent très, très bébés aussi, ils ont des émotions très très fortes, et du coup ça engendre tout un tas de problèmes de comportement au quotidien, comme ça en avait, des grosses frustrations provoquent des grosses colères, et plus le quotient intellectuel est élevé, plus le quotient émotionnel, donc les émotions sont fortes. Et ça, c'est très difficile à gérer au quotidien, en famille et aussi en classe.
Mmh. Oui, on a souvent de l'hypersensibilité avec ce haut potentiel.
Mmh. Et c'est d'ailleurs ce qui est le plus dur à gérer, je pense. C'est pas le fait qu'un enfant fasse des calculs incroyables ou ait des connaissances ou ingurgite tout un tas d'informations. La problématique, c'est beaucoup les émotions. Nous, c'est ce qui nous posait le plus de problèmes au départ. Les crises de Matisse, c'est ses colères, c'est sa frustration, c'est le fait qu'il se replie sur lui-même. C'est plutôt le comportement émotionnel qui est difficile à gérer.
Est-ce que ça faisait de Matisse, à 4 ans, un enfant qui avait du mal à avoir des copains, à se lier avec les autres?
Mais en fait, pas tellement. Pas tellement. Je l'ai retrouvé assis par terre, jouer avec personne, donc évidemment, si, peut-être.
Oui, bon.
Mais pas tout le temps. C'est-à-dire que comme il n'aimait pas l'école, rapidement, il a bien compris qu'il y a une chose qu'il pouvait faire, c'est jouer avec les copains. Et il se nivelait vers le bas. C'est-à-dire que plus Matisse est allé à l'école, moins il a bien parlé. Il s'est mis à parler comme un bébé. Plus il faisait de bêtises pour jouer avec ses copains. Et il a adopté un comportement différent de ce qu'il était réellement, quoi, pour pouvoir avoir des copains. Mais actuellement, on l'a changé d'école avec son papa à l'époque, parce que c'était impossible. Enfin, l'éducation nationale, malgré les efforts, malgré les tentatives de l'établissement de changer des choses, en faisant intervenir notamment une responsable, il y a une personne dans chaque académie qui est responsable des enfants précoces, enfin pas responsable, mais qui s'en occupe et qui peut intervenir dans les écoles. Donc on lui a demandé d'intervenir justement pour essayer d'expliquer le profil, expliquer ce qu'est un enfant précoce. C'est pas un génie. D'ailleurs, la maîtresse nous avait dit si Matisse était un génie, ça se saurait, alors qu'on avait les tests devant nous. Qui est hyper violent, et pour l'enfant et pour les parents, mais pour essayer de faire changer les choses dans le public, quoi. Et les enseignants ne sont pas du tout formés, et donc on a dû le changer d'établissement. Ouais. On l'a mis dans une école alternative, Montessori, pour faire en sorte qu'il avance à son rythme et qu'il trouve sa place, parce qu'il ne trouvait pas du tout sa place. Et ça, c'est la problématique de ce profil-là, des enfants et des adultes. Un enfant précoce ne devient pas un adulte normal ou normé.
Oui,
ça reste un adulte à haut potentiel. Hein. C'est un fonctionnement. Ça ne change pas de toute sa vie. C'est de trouver sa place. Et de trouver sa place. Ouais, 2% de la population est surdouée, précoce.
2%.
Ouais. Et donc, il faut trouver sa place parmi les 98% restants.
J'aurais voulu savoir comment était Matisse lorsqu'il était plus petit, en fait, autour de 1 an, 2 ans. Parce que, est-ce qu'on peut détecter dès ce jeune âge vraiment quelque chose qui peut...
Si on n'a aucune connaissance du haut potentiel, c'est difficile. Moi, j'en avais aucune.
D'accord.
Je ne savais pas du tout ce que c'était. Enfin, pour moi, c'était des petits génies, genre Einstein, je sais pas, genre de trucs qu'on a tous en tête. Quoi. Donc moi, mon petit garçon, il marchait à 10 mois, je trouvais ça cool. Il parlait à 2 ans comme un adulte. Mais après, il n'y avait pas d'enfant dans la famille. Il était souvent avec mes parents qui lui parlaient comme un adulte. Moi, je lui ai toujours parlé comme un adulte. Je n'ai jamais parlé comme un bébé. Donc je trouvais ça normal. Mais il avait un regard très, très insistant et apparemment ça fait partie des caractéristiques, mais encore faut-il le savoir, et il avait des émotions très fortes, beaucoup de crises dès que ça n'allait pas, beaucoup de frustration dès qu'il n'arrivait pas à faire ce qu'il voulait, il ne supportait pas plein de choses, les odeurs.
Les odeurs.
Des étiquettes. Ouais, apparemment, beaucoup d'enfants, je parle d'enfants, hein, mais parce qu'il est enfant, mais de personnes à haut potentiel ont ce qu'on appelle de l'hyperesthésie, je crois, des sens plus développés que d'autres, notamment l'odorat, souvent, donc ça peut être très gênant, voire rendre malade. Enfin, voilà, le goût. Il a des blocages alimentaires sur pas mal de choses. Le toucher, il y a des choses qu'il ne supporte pas de toucher, enfin des habits ou des étiquettes.
Ça a posé problème, ça, beaucoup au tout début.
Sur les étiquettes, on les coupait.
Oui, mais il y a certains textiles, je suppose, qu'il ne supporte pas aussi.
Là, par exemple, il ne supporte pas qu'on l'embrasse. Ça, oui, évidemment. Voilà. J'ai jamais pu embrasser mon fils. supporte pas. Ses grands-parents non plus, ce qui a posé des problèmes énormes. Je ne sais pas si c'est l'odeur, si c'est le toucher, si c'est, mais il ne supporte pas qu'on l'embrasse. Donc pour la famille ou pour l'entourage, c'est des choses compliquées à faire accepter.
Je me doute que c'était vraiment excessivement difficile pour les grands-parents. Parce que quand on est parent, on connaît son enfant. On prend l'habitude de ne pas le heurter parce qu'on voit qu'il ne le fait pas intentionnellement pour nous embêter. C'est que vraiment, il a une problématique particulière. Quoi.
Au départ, il y a beaucoup de questionnements quand même.
Bien évidemment.
Les frustrations, les colères, le rejet, c'est difficile pour une maman de ne pas pouvoir embrasser son enfant. Je vous l'accorde.
Bien sûr. Mais est-ce que Mathis était timide, introverti parfois est-ce que...
Pas avec nous.
Pas avec vous, non, mais dans le groupe. En fait, dans la classe.
Ouais. Moi, j'étais jamais dans la classe, donc c'est assez compliqué, mais apparemment, il s'est renfermé au fur et à mesure. Mais je sais que quand il voyait des gens qu'il ne connaissait pas dans la famille, il se cachait. Il se cachait. On nous a parfois demandé s'il était autiste. Enfin, les gens sont assez violents parce qu'ils ont des références qui heurtent.
Mais avec de toute façon, les gens, Céline, à partir du moment où on est hors norme, les gens ont du mal. Et j'ai l'impression que c'est de pire en pire aujourd'hui avec ce recroquevillement là, sur soi-même dans cette société qui est de plus en plus difficile et où c'est chacun pour soi pour beaucoup y a une difficulté à accepter l'autre avec ses différences. On va continuer à en parler si vous le voulez bien Céline dans quelques instants. On marque une petite pause, d'accord ?
D'accord.
À tout de suite. Si vous nous rejoignez maintenant, soyez les bienvenus. C'est votre libre antenne qui vous accompagne, comme tous les soirs, jusqu'à 1h du matin. Et vous êtes bien sur Europe 1. On évoque Mathis, le fils de 4 ans de Céline ce soir. Mathis qui a été diagnostiqué à haut potentiel autour de ses 4 ans. Je suppose tout de même que ça a répondu à beaucoup, beaucoup de questions, tout de même, Céline, même si ça n'a pas répondu à toutes. Mais ça a dû apaiser pas mal de choses chez vous.
Ouais. Oui, Mathis a été diagnostiqué à 4 ans. Aujourd'hui, il a 11 ans. Voilà. Ça m'a déculpabilisée. Je dis, mais mon ex-conjoint aussi, puisque maintenant, on est séparés, mais ça... En tant que père et mère, on se pose toujours la question de savoir si on élève bien son enfant. Et quand un enfant ne s'adapte pas à l'école, a du mal à s'intégrer, même au sein de la famille, qu'il peut avoir des accès de violence, retourner sa chambre, faire des colères, très rapidement, on a des remarques de l'entourage. On a des gens qui ne veulent pas le garder. On se sent coupable de quelque chose.
Bien sûr, ouais.
Et le fait d'avoir les résultats, ça nous a confortés dans le sens que Mathis était différent, qu'il avait un comportement différent des autres enfants, qu'il avait une émotion forte et que ce n'était pas dû à la manière qu'on avait de l'élever. C'était vraiment intrinsèque à sa personnalité, à un fonctionnement différent. Et ça nous a permis de mieux le comprendre. Et en fait, en comprenant un enfant et un fonctionnement différent, on arrive à mieux communiquer avec lui, trouver des solutions, essayer de faire comprendre aux gens des choses, et puis se dire que il faut trouver des solutions parce qu'il sera toujours différent, et qu'on a envie qu'il soit heureux, qu'il avance bien, et que finalement, ce haut potentiel, il y a certes des difficultés à vivre au quotidien, d'un point de vue émotionnel, mais y a quand même du potentiel derrière. Et est-ce qu'on ne peut pas miser là-dessus, sur le positif, plutôt que sur ce qui est compliqué à vivre au quotidien? Et alors ça a été le point positif. Et puis pour moi, ça a été une claque aussi, parce que quand j'ai eu les résultats de mon fils, je les ai apportés à mes parents en leur disant, tiens, voilà, j'élève pas mal mon fils, voilà, il est comme ça, il est différent.
Oui.
Et en fait, mes parents m'ont avoué que mon frère avait le même quotient intellectuel, c'était aussi un enfant surdoué, que je ne savais pas. Et en fait, mon frère s'était suicidé des années auparavant, suite à des dépressions, suite à, au fait qu'il ne s'était jamais intégré dans la société. Et pour moi, ça a été une claque parce que du coup, j'ai d'un seul coup eu très peur. J'ai eu très peur que mon fils ait la même évolution, ou en tout cas les mêmes problématiques que mon frère. Donc d'un côté, j'étais soulagée des résultats, et d'un autre côté, ça m'a renvoyée à une histoire terrible, de celle de mon frère qui était un enfant surdoué, qui n'avait lui pas été reconnu, parce que même s'il avait passé les tests à l'époque, on lui avait juste dit... Votre fils est intelligent, s'il est en échec scolaire, hein, il ne fait rien en fait. Donc il y a eu comme ça un peu acharnement des professeurs, mes parents ont été un peu plus sévères avec lui et ça l'a mis en échec très rapidement sur plein de plans de sa vie. Et donc ça, l'angoisse, elle a été de faire en sorte que mon fils ne revive pas la même chose.
Oui, je comprends. Alors par rapport à ce haut potentiel aujourd'hui, est-ce que vous cultivez certains domaines de sa vie où il va développer, alors ça peut, à 11 ans, ça peut être la musique, ça peut être, vous voyez, une discipline dans laquelle, parce que bien évidemment, il faut aussi optimiser ce potentiel, je trouve, il faut en profiter.
Alors on a la chance, ouais, d'avoir pu le mettre dans une école Montessori. Je dis qu'on a la chance parce que c'est des écoles alternatives sont très chères et malheureusement, ben, les hauts potentiels, il y en a dans toutes les classes sociales. Quand on n'a pas les moyens, c'est, je pense, compliqué de développer les potentiels de ses enfants. Mais donc, dans une école Montessori, il peut avancer à son rythme. Il y a beaucoup d'exposés et surtout, ils accentuent l'enseignement sur ce que les enfants aiment. Ils leur proposent de faire plein d'exposés, de faire des visites, des choses comme ça. Donc, ça cultive vraiment... Bah, c'est ce qu'il aime faire. Enfin, il se sent libre de pouvoir proposer des choses qu'il a envie de proposer. Et puis, en parallèle, il y a deux choses qu'il aime beaucoup. C'est le piano, notamment en musique, effectivement. Et ça, il prend des cours particuliers. Et sa prof nous disait que quand on est au potentiel, ça fuse de partout. On a besoin d'être occupé dans tous les sens. Et
bien
le piano,
sûr,
c'est génial parce qu'on lit une partition, on a les mains occupées, on a les pieds occupés. Les oreilles, elles sont à l'écoute, les yeux. Et c'est vraiment un instrument qui est génial pour les enfants comme ça, parce que tout est sollicité. Et en fait, ce qui est drôle dans un enfant au potentiel, c'est qu'ils ont besoin de bouger pour bien réfléchir. Ça, évidemment, l'éducation nationale a du mal à comprendre.
Uh-huh.
Que pour apprendre, il faut courir, il faut sauter sur un lit, il faut bouger, quoi. Évidemment, dans une classe, c'est compliqué de faire comprendre que... Effectivement, c'est en bougeant le corps qu'on se concentre.
Oui, et c'est là où ça pose souvent problème pour ces enfants-là, on imagine bien une maîtresse comme ça qui a un ou même deux élèves, parce que c'est possible, avec 2% de la population qui est touchée, c'est possible. Mais imaginez donc une maîtresse et un enfant à haut potentiel, un autre qui souffle de troubles de l'attention. Voilà, un haut potentiel qui bouge, un autre qui a des troubles de l'attention et de la concentration, un autre qui soit 10. Et un enseignant peut vite se retrouver. Elle peut vite se retrouver débordée, finalement.
Dépassée, et c'est compliqué. Et un autre sport qu'il fait depuis ses 4 ans, justement, c'est. Il fait du karaté et ça c'est génial comme sport parce que donc il a été suivi par un psychomotricien de ses 4 ans à ses 10 ans, donc on a arrêté l'année dernière. Et c'est la motricité, quelque chose de compliqué, le corps le corps dans l'espace, la concentration, et donc le karaté permet de se déplacer dans l'espace. Le karaté, c'est pas simplement du combat, c'est des katas, donc une sorte de chorégraphie d'arts martiaux. Et ça permet à ces enfants-là de se déplacer dans l'espace, de retenir des choses, de bouger le corps et d'essayer de mieux bouger. Parce que la motricité fine, c'est quelque chose de compliqué pour eux. Parce qu'ils ont un cerveau qui va très très vite, mais un corps qui reste le corps d'un enfant. Donc, par exemple, en écriture, c'est dramatique. C'est pour ça que les maîtresses, elles ont du mal à comprendre qu'un enfant qui écrit très mal peut être un haut potentiel, par exemple, parce que quand il écrit une phrase ou un mot, il peut oublier la moitié des mots parce que le cerveau va trop vite. Le cerveau va beaucoup plus vite que la main. Donc, c'est très compliqué pour
eux. Oui, d'accord. Oui. Le cerveau va plus vite que la main. Oui, d'accord.
Bah oui. Mmh. Ou c'est comme le dessin. Mathis, tout petit, refusait de dessiner, mais même maintenant, parce qu'ils ont... c'est souvent des profils d'enfants, d'adolescents ou d'adultes qui ont une envie de perfection. Voilà. Ils tendent à la perfection. Évidemment, quand ils dessinent, le résultat n'est pas à la hauteur de ce qu'ils ont en tête. Du coup, beaucoup de frustration et ils refusent de dessiner. Mais évidemment, une main d'enfant ne peut pas dessiner ce qu'ils ont dans la tête, quoi. Et ça, ils ont du mal. La frustration, c'est quelque chose de très dur pour eux. Et donc, la motricité fine, c'est hyper important de travailler ça avec eux pour ouais. l'écriture. Pour, en plus, comme c'est des enfants souvent très stressés, ils cassent, Mathis a cassé je ne sais combien de crayons en essayant de dessiner ou d'écrire. Et de tension, quoi. Les choses sont jamais simples. C'est des, ouais, c'est des enfants où il y a une sorte de non-légèreté, parfois, dans leur rapport à la vie.
Oui, puis il y a une demande...
Dans leur question sur la mort,
oui, oui.
question existentielle. Il y a quelque chose comme ça. Parfois, ils peuvent être légers, mais parfois, c'est, on sent qu'il y a des questionnements incroyables derrière, dans leur tête, quoi. Ça n'en finit plus. C'est des cerveaux en arborescence. Ou quand une question simple est posée, bah, ce n'est pas une réponse simple qui arrive. C'est 10 000 questions en même temps avec des problématiques incroyables. Alors que vous avez juste demandé, je ne sais pas, ce qu'ils voulaient prendre au petit déjeuner. Quoi.
Et comment ça se passe aujourd'hui à 11 ans en société, en fait, plus précisément, est-ce que Mathis a des copains ou est-ce que c'est un enfant qui souffre de la solitude, qui a du mal à s'ancrer dans une amitié forte
Non, on a la chance pour l'instant d'avoir des copains qui lui ressemblent beaucoup. Hein. Apparemment, il s'attire. Il a des copains qui sont vraisemblablement, ils ne sont pas tous testés, mais à haut potentiel. Parce que je pense que c'est pas qu'il s'attire, mais c'est comme les gens qui se ressemblent, qui parlent de la même manière, qui ont les mêmes envies. Enfin, voilà. C'est quelque chose de ce type-là. Mais sinon, il s'intègre assez bien. Il adore être avec des enfants. C'est un enfant unique. On est séparés avec son papa, donc on l'a qu'une semaine sur deux. On essaye de faire en sorte qu'il soit avec des enfants. Et il s'adapte assez bien. Et ça, on avait une grosse peur parce que quand il a été testé, c'est la première chose qu'on nous a dit. Il risque de se retrouver vite seul. Il a beaucoup plus de difficultés avec les adultes. Alors qu'à l'inverse, quand il était petit, ça allait beaucoup mieux avec les adultes, mais il se ferme assez facilement. En fait, de famille, il s'en part. Il reste très peu avec nous, il s'isole.
Ouais.
Beaucoup. Mais avec les enfants, ça va.
Bon, c'est une chance, hein, parce que...
Ouais.
Non, mais vraiment, vraiment. Vous savez, je suis assez branché sur la question des enfants différents. Mmh. Et s'il y a bien quelque chose qui est un véritable crève-cœur pour pas mal de parents, c'est la solitude de leurs enfants.
La difficulté à se lier. Après, dans une école spécifique, je crois que la majeure partie de ses copains sont à haut potentiel. Enfin,
d'accord,
il me semble.
D'accord.
Je n'ai pas forcément demandé aux parents, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on a envie de... On en parle, mais tous les enfants ne sont pas testés, parce que quand il n'y a pas besoin... Enfin, nous, on a fait les tests parce que la psychologue nous a demandé de faire les tests, mais quand il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin. Mais l'année prochaine, il va dans un collège... qui est privé, mais qui est traditionnel. Et c'est là que les angoisses commencent, en fait, vont recommencer.
En fait, je vais vous dire, le souci avec ces enfants, c'est qu'ils comprennent mieux que quiconque une situation. Ils vont l'analyser 5 fois, 6 fois, 10 fois plus vite que tout le monde.
Ouais.
Les codes de l'éducation, d'une bonne éducation, hein, qu'ils auront obligatoirement attrapé au moment où on leur aura distillé ces codes dans l'éducation, c'est-à-dire les valeurs. Et donc, cela fait des enfants, et ensuite des ados, et ensuite des jeunes adultes, et des adultes ensuite, qui sont toujours dans une perception de la réalité et des situations qui finalement ne ressemble pas à celle des gens, de la plupart des gens qui les entourent, puisque ça n'est pas que les gens qui les entourent sont bêtes, mais ils sont moins clairvoyants. Entendez par là clairvoyant, c'est-à-dire mettre en lumière une situation et voir tous les tenants et les aboutissants. Et 99% des gens sont comme ça. Et il y a 98%, on va dire, les 2% restants étant ces personnes-là et qui peuvent paraître parfois prétentieux, parfois imbus de leur personne, alors qu'il n'en est rien. Ils font comme nous, ils disent ce qu'ils pensent et ce qui leur passe par la tête.
Oui, c'est sûr qu'il n'y a pas tellement de filtres sur les...
Pas de filtres, c'est ça, oui.
Les commentaires.
On va à nouveau faire une petite pause, si vous le voulez bien, et puis on se retrouve tout de suite pour continuer d'évoquer Matisse. Le temps d'écouter l'info à 23h sur Europe, d'accord ?
D'accord.
À tout de suite. Si vous nous rejoignez simplement maintenant, sachez que vous êtes bien sur votre radio, sur Europe 1, et que c'est bien votre Libre Antenne qui est là, avec toute l'équipe de la Libre Antenne, Florian, Natacha, Jean-François, Philippe et moi-même, et que nous sommes ensemble jusqu'à 1h du matin. Donc installez-vous, vous êtes ici chez vous, soyez les bienvenus, nous sommes là pour évoquer la vie des autres et quelque part un peu la vôtre, puisque souvent on identifie dans un témoignage eh bien quelque chose qu'on a déjà vécu, qu'on a déjà ressenti. Donc c'est en cela que nous sommes tous connectés et liés les uns aux autres. Ça, c'est une certitude que j'ai, chers amis. On évoque Matisse, le fils de 11 ans de Céline, qui est à haut potentiel. Céline, on évoquait donc la perception de Matisse et en règle générale de ces gens qui sont à haut potentiel, qui peuvent leur poser problème finalement parce que les autres peuvent interpréter cette fluidité qu'ils ont, cette fluidité d'esprit, le fait d'aller vite, d'analyser vite une situation et de donner aussi son avis, et ça peut mettre à mal en société d'être comme ça. Est-ce que Matisse en a souffert de ça et est-ce qu'il en souffre maintenant encore?
Je pense qu'il en a souffert quand il était à l'école publique parce que il avait envie d'intervenir, ce qu'il avait le droit de faire à la maison, de dire ce qu'il avait à dire, de commenter sans se poser la question de savoir s'il avait le droit ou pas forcément le droit de parler, de dire ce qu'il pensait. Et je crois qu'il a été beaucoup cassé. On lui a interdit. L'école, en fait, pose des interdits dès le départ. On peut comprendre quand il y a 30 élèves. C'est « lève la main avant de parler ».« Non, c'est bon, t'as déjà parlé ».« Non, c'est bon, t'as déjà parlé ». Quand un enfant peut parler souvent, on lui demande d'arrêter. Et puis, effectivement, qu'un enfant donne son avis, c'est un problème de génération aussi, je pense, parce que moi, ça ne me dérange pas. Et puis maintenant, je vis seule avec lui, de parler avec lui comme un adulte qui s'exprime, qu'on essaie de que je lui donne sa place, non pas en tant qu'adulte, en tant qu'enfant, mais en tant qu'un enfant qui peut raisonner aussi comme... qui a la possibilité d'avoir des ressentis presque d'adultes, puisque c'était le cas. Et alors que en famille, c'est compliqué. À l'école, ça passe encore parce qu'il est dans cette école Montessori qui est différente. Mais c'est vrai qu'il y a dans les anciennes générations où on ne donnait pas la parole aux enfants et à l'école ou dans la société où on n'a pas l'habitude de laisser cette libre parole à un enfant ou s'exprimer sur des choses qui, a priori, ne sont pas des choses de son âge, ça peut poser problème, évidemment. Et puis, ça peut être énervant. Ça peut être énervant de voir que quelqu'un... il aime bien avoir le dernier mot. mais il est très bon en calcul, donc... Évidemment, il est toujours le premier à sortir le résultat, il aime bien le montrer, mais Je ne pense pas que ça soit de la vantardise, c'est un jeu. Je crois que c'est un jeu, et puis c'est des enfants qui sont tellement peu sûrs d'eux, au fond d'eux-mêmes, que ça les rassure. Ils ont besoin d'être rassurés sur des connaissances qu'ils ont,
oui.
Parce qu'ils ont tellement peur, et ils ont tellement de difficultés sur d'autres domaines, qu'ils ont besoin d'être rassurés, d'être ancrés dans des choses où ils peuvent être bons. Et ça, c'est hyper important dans l'éducation. C'est comme ils ont été souvent cassés à l'enfance, ou remis à leur place, de leur donner confiance en eux, d'essayer
Ouais,
d'être bienveillants et d'essayer de leur montrer qu'ils ont de la valeur et qu'effectivement, ils ont des difficultés dans pas mal de choses. Alors, Mathis, à 4 ans, il avait déjà vu deux psychologues. Enfin, c'est chaud quand même. Il avait fait toutes les séances, il a fait des tests. Il a été, pas viré de l'école, mais rabroué quand même sérieusement par l'école. Les parents, c'était compliqué. Ils ne le comprenaient pas. Il était toujours en crise. Enfin, à 4 ans, ça fait beaucoup pour un petit garçon. Et donc, le rassurer. Et puis, toujours ses émotions qui sont là, et toujours ses frustrations, et toujours des crises avec ses meilleurs copains, des fois, parce que les émotions faisant, le rapport à l'autre est compliqué. Il faut leur donner confiance, essayer d'être bienveillant, en leur expliquant qu'il y a des choses qu'on peut dire ou ne pas dire, mais c'est difficile. C'est difficile pour eux de comprendre. Le filtre, il est très, très compliqué, parce que j'ai l'impression que tout est au même niveau pour eux. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de différence entre quelque chose de très important et de moins important. Tout est au même niveau, donc c'est compliqué.
Ouais, ouais. Est-ce que il a conscience de ce haut potentiel, Mathis?
Oui.
Oui. Est-ce que cette différence, il la connaît, il vous
la
en parlez
parce que il a fait les tests à 4 ans. Et à 4 ans, ils sont suffisamment intelligents. D'ailleurs, n'importe quel enfant est suffisamment intelligent pour comprendre que quand on va voir des psychologues qui vous font des tests, ils vous posent 15 000 questions. Il en a conscience. On lui en a parlé. On lui a dit pour qu'on le changeait d'école.
Oui.
Enfin, c'est qu'on ne lui a pas imposé, d'ailleurs, de changer d'école. Il voulait partir de l'école. Donc, on lui a proposé une autre école. Et ça lui fendait le cœur parce qu'il quittait son meilleur copain. Mais il sentait très bien qu'il ne s'épanouirait pas et qu'il fallait qu'il change d'école. Mais très rapidement, on lui a expliqué. Ouais. On lui a expliqué. Et il sait qu'il est différent. Et il le dit, mais c'est parce que je suis différent. Parce que c'est pas pareil. Et ça, au départ, il a eu un peu de mal à le gérer aussi, parce qu'il ne savait pas s'il pouvait en parler, pas en parler. D'ailleurs, il ne sait jamais s'il peut parler des choses ou pas.
Quoi. Ouais. Ben oui, parce qu'il doit, il doit avoir peur maintenant de paraître... parce que très vite, je pense qu'à 11 ans, on sait que l'on peut, dans le regard des autres, être... quelqu'un qui va frimer, qui va se la raconter, à expliquer tout. Et je pense qu'il y a de la retenue chez cet enfant.
Et puis le mot surdoué, franchement, il est hyper lourd à porter, quoi.
Très lourd, très lourd.
Bah oui.
Il vous demande de ne pas en parler de ça. Quel est son rapport à ça?
On n'en parle pas. On aborde la question quand on est allé au collège, voilà, ce nouveau collège. Évidemment, on a abordé la question parce que c'est essentiel. C'est essentiel d'aborder la question dans un établissement scolaire. C'est essentiel qu'il y ait un suivi psy. C'est essentiel. Ils nous ont tout de suite demandé les résultats, voir quelles étaient les problématiques, les troubles associés s'il y en avait. Il voulait savoir. Il arrivait dans une école Montessori. Évidemment, il voulait comprendre il arrive avec lui, fonctionnement Montessori. Plus au potentiel, il retourne dans une structure traditionnelle, il faut qu'il soit accompagné. Donc on en parle énormément avec les gens et il est là. Après, en famille ou avec des amis, moi quand j'en parle, je préfère qu'il ne soit pas là. Parce que j'ai pas envie que ça soit comme une chape de plomb tout le temps sur lui, comme ça. Mais par contre, j'en parle parfois avec lui. Quand il n'arrive pas à faire quelque chose, ou quand il y a une émotion forte qui revient, ou quand il arrive à faire quelque chose, ou justement, il a des super résultats quelque part. Je lui dis, ah, mais c'est super, et tu as vu, t'as presque pas... Par exemple, il lit une poésie, il la connaît. Enfin, voilà, il a une mémoire incroyable. Et d'un autre côté, l'écriture, c'est très compliqué. Tu peux lui faire comprendre que c'était... En fait... c'est génial parce qu'il a appris, mais parce qu'il a une super mémoire. Et donc ça, il faut, voilà, c'est super. J'essaye de lui montrer ses atouts et puis les problématiques qu'il a. Bah, c'est normal, Mathis, tu sais bien, tu as un cerveau qui va tellement vite que ta main, elle ne peut pas suivre. Mais essaye de te calmer, essaye de calmer ton cerveau. Enfin, il sait ça. De toute façon, il sait qu'il fonctionne comme ça et que... Et puis, il a vu un psychomotricien pendant 6 ans, donc il peut pas... Voilà, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de spécialistes.
Ouais, ouais. Et c'est,
ils lui
c'est...
ont expliqué, réexpliqué. Mmh. Qui, voilà, il sait qu'il est différent.
Mmh. Et ça n'est pas...
Maintenant, lui-même, je ne pense pas qu'il aborde ses copains en parlant comme ça. Je ne sais pas exactement. Mais s'il avait dit à son meilleur copain, je ne sais plus qu'il lui avait dit, mais qu'il lui avait parlé un peu de son cul. Et le copain qui n'avait pas passé les tests ne comprenait pas. Parce que le copain avait dû lui dire un truc comme ça. Moi, je suis hyper intelligent parce que je ne sais pas quoi. Et en fait, Mathis lui a dit, bah, tu n'es pas aussi intelligent que moi parce que je suis au potentiel, j'ai tant de QI. Ouais. Mais l'autre, il l'a regardé en disant, de quoi il me parle? Donc, un jour, je pense que oui, ça... Et je lui ai dit, tu sais, Mathis, c'est pas... En fait, c'est... on est tous différents, quoi. On s'en fout du QI, quoi.
Bon, en tout cas, je vais vous dire, pour conclure, c'est que la chance qu'il a, comme tous les enfants différents dont les parents ont assimilé ça, ont eu cette présence d'esprit ou parfois un thérapeute dans leur entourage ou une maîtresse, un professeur, un directeur d'école, un proviseur, un prof de sport, quelqu'un qui a su détecter ça et qui a fait que plus jeune, on a pu prendre conscience de ça, mettre des mots sur justement un comportement, sur une perception différente des choses. Et, ça, c'est important. Aujourd'hui, Mathis, il a la chance de vous avoir vous, Céline, bien évidemment, d'avoir son papa aussi, et surtout de pouvoir bénéficier de Montessori, qui est quand même une sacrée lumière. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est une chance, et c'est lumineux. Lorsqu'on pense qu'il y a des structures comme ça.
C'est une structure qui ne l'a pas
cassé. Mais oui.
Qui l'a reconnu dans sa différence.
Mais oui, oui. Et ce que je veux dire par là, vous voyez, c'est que tous ces établissements aujourd'hui qui sont lumineux comme ça, parce que lorsqu'on est parent d'enfants différents, on parle de lumière, parce qu'on a tellement été plongé dans les ténèbres, parfois dans l'incompréhension de savoir mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que mon enfant a, qu'est-ce que... Enfin voilà, dans l'incompréhension, c'est pour ça que je parle souvent de lumière quand on en sort et quand on peut poser des mots et qu'en plus on a cette chance de pouvoir avoir les moyens. C'est là où je veux en venir, parce que malheureusement aujourd'hui en France, lorsqu'on n'a pas les moyens de se payer Montessori ou
le CRN
ou tous ces thérapeutes qui autour sont nécessaires pour ces enfants, eh bien voilà, c'est une inégalité dont il faut parler aujourd'hui, parce que malheureusement, les enfants qui naissent dans des milieux défavorisés, eh bien, n'ont pas cette chance d'avoir Montessori, d'avoir tout ça. Et je trouve ça tout à fait anormal, bien évidemment. Mais bon, vous avez cette chance, heureusement, et Mathis, par vous, a cette chance. Et je suis bien content de savoir que quand même, ce petit bonhomme fait son chemin.
Merci beaucoup.
Mais je vous en prie, Céline. Et puis, embrassez-le pour nous. Et puis, n'hésitez pas à nous rappeler, un de ces quatre, pour nous donner des nouvelles.
Bah, c'est très gentil.
Vous êtes
merci
ici chez vous.
Merci en tout cas de votre écoute.
Mais je vous en prie. Passez une bonne soirée.
Merci.
Et une bonne
aussi.
Nuit. Au revoir.